Nous sommes William et moi-même ravis aujourd'hui de recevoir dans le podcast Clément Escoffier et Julien Ponge, ce dernier pour la seconde fois. Tous deux émérites universitaires et principal software engineer chez Red Hat, ils ne vont pas se contenter d'itérer les avantages de la programmation réactive, mais aussi de répondre à nos questions sur Quarkus et Mutiny.
Bonjour Clément et Julien, merci d'être là dans ce podcast.
Bonjour.
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 Alors, donc aujourd'hui, on va parler de Mutiny. Est-ce que l'un d'entre vous deux, vous pouvez me dire rapidement qu'est-ce que c'est que ce projet ?
Julien, vas-y, je te laisse.
Eh bien, je vais vous parler rapidement de qu'est-ce que Mutiny. Alors, Mutiny, c'est un projet qui a été fondé par un certain Clément Escoffier. Il paraît que c'est un Français très connu. Et c'est un projet dont je m'occupe aujourd'hui. Alors c'est ce qu'on appelle une bibliothèque de programmation réactive. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faciliter la composition de votre code métier autour d'opérations asynchrones. Par exemple, voilà, vous recevez une requête HTTP, vous allez faire une requête vers une base de données qui va être asynchrone. Quand vous avez le résultat, vous allez l'envoyer sur une file, sur du Kafka. S'il y a une erreur, vous allez réagir à cette erreur. Bref, c'est un modèle de programmation, on va dire, événementiel, autour d'entrées-sorties asynchrones. Et avec Mutiny, on vous aide, en fait, à exprimer ça de la manière la plus déclarative, structurante possible. Et c'est pas la seule bibliothèque qui existe, évidemment. Il y en a d'autres dans l'écosystème. Donc, il y en avait là qui était avant. C'est beaucoup tiré de ce qu'on appelle Reactive Extensions, qui est une philosophie qu'on retrouve dans d'autres écosystèmes, notamment JavaScript. Il y avait RxJava, qui est un peu l'ancêtre de toutes ces bibliothèques en Java. Il y a Reactor côté Spring, il y a Mutiny, donc on utilise dans l'écosystème Vertex et Quarkus, etc. Est-ce que Clément, tu penses que j'ai bien résumé l'œuvre que tu avais lancée?
Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse parler d'œuvre, mais... Mais c'est exactement ça. En fait, à la base, l'histoire de Mutiny est à mettre en parallèle de l'histoire de Quarkus. On a commencé Quarkus au début, on cherchait une API pour faire du réactif, mais beaucoup plus sympa que ce qu'on avait à la base. Donc on voulait éviter les callbacks, on a essayé des choses autour de Rx, on a essayé des choses autour d'un modèle microprofile Reactive Streams Operators, mais en fait la fluidité, l'expérience développeur, c'était toujours très très compliqué. On a regardé completion stage et en fait on s'est aperçu que les gens ne savaient pas vraiment utiliser cette API pour de très bonnes raisons, c'est qu'en fait il y a plein de pièges, etc. Et donc, au bout d'un an du projet Quarkus, on a dit, bon, on va remettre les choses à plat, on va essayer de voir un truc plus facile à utiliser. Et c'était vraiment ça notre idée, c'était de dire, bon, alors, comment on peut apporter de la programmation réactive à des gens qui n'en ont jamais fait sans qu'ils se tirent une balle dans le pied ou dans la tête. Et en même temps, on réfléchissait à Quarkus, à comment construire de meilleurs systèmes distribués avec Quarkus. Et donc, évidemment, l'idée d'événement, l'idée de message est venue naturellement. Donc, quand j'ai commencé à designer les choses, après maintes itérations, je me suis dit, tiens, en fait, l'idée, ça serait de dire que dans Mutiny, tout est événement. Et en fait, quand on écrit du code, on va écrire du code événementiel. Donc, on va avoir des on item, des on failure, ce genre de choses. Et c'est ça qui a bootstrappé un peu cet effort en disant jusqu'où on peut aller avec cette idée d'événement. Et au final, on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui, un prototype de ce qu'on avait aujourd'hui. Quand je l'ai dit, on avait regardé autre chose. On avait évidemment regardé Reactor et RxJava. Et Julien et moi-même, on vient de l'équipe Vertex à la base. Et donc dans Vertex, on supporte Eric Java et donc on l'a même recommandé pendant assez longtemps. Et donc on a eu, ça nous a donné l'opportunité de voir comment les gens utilisaient Eric Java ou Reactor, hein, parce que finalement les API se ressemblent énormément. Et je me souviendrai toujours d'un jour où j'étais chez un client et je leur explique donc Eric Java, voilà, et il y avait des gens qui utilisaient Eric Java. Et je leur explique comme ça, dans des tours d'un slide, la différence entre concatmap et flatmap. Et quand je leur ai expliqué que, c'était pas du tout le même opérateur et que les choses étaient différentes et voilà, et qu'il y en avait un qui préservait l'ordre et pas l'autre, j'ai vu deux personnes devenir blanches. C'est-à-dire que, c'est des gens qui faisaient, dans ce cas-là, du Kafka, mais dont l'ordre des événements était extrêmement important. Et ils avaient donc utilisé Flatmap, parce que c'est super cool d'utiliser Flatmap, sauf que dans leur cas, ça a perturbé l'ordre des événements, et ça leur a expliqué en un slide pourquoi ils avaient tellement de problèmes en production depuis quelques mois. Et en fait, voilà, tout ça pour résumer en disant, ces API, elles demandent un background fonctionnel qui est pas simple, qui est pas forcément courant. Et au final, on se retrouve avec des classes avec des centaines de méthodes. Je sais plus combien il y en a, mais je crois que c'est un truc comme 400 méthodes dans Flux, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça.
C'est quelque chose comme ça, ouais.
Ouais, avec beaucoup d'overload, c'est-à-dire des flat maps, vous en avoir 12. Mais lequel il faut utiliser? Eh ben, bon courage. Et quand j'ai fait des workshops autour de Eric Java, j'ai vu des gens qui étaient dans leur IDE, qui regardaient avec l'autocomplétion et qui, au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il fallait faire, regardaient, donc parcouraient la liste des 400 méthodes pour trouver la méthode qui correspondait, la signature correspondait avec ce qu'ils avaient. Ouais, alors, comment dire, c'est un peu casse-gueule de faire comme ça, parce que, voilà. Et le dernier point, c'est que finalement, on se retrouvait avec des gens qui avaient plutôt tendance à vouloir faire du code de ninja, au lieu du code lisible et maintenable. C'est-à-dire qu'ils étaient super contents d'avoir réduit quelque chose qu'ils auraient pu écrire en 10 lignes. Ah oui, mais regarde, je peux en faire un one-liner en utilisant ce truc-là. Ouais, super, mais c'est rarement toi qui maintiens ton propre code. La preuve, j'ai créé Mutiny, je l'ai délégué à Julien, donc voilà. Donc, ce genre de choses, oui. C'est très bien, c'est un exercice intellectuel, mais en même temps, c'est un exercice intellectuel qui peut être dangereux, dans le sens où, comme c'est pas nous qui allons maintenir le code qu'on écrit, il faut que le code qu'on écrive soit le plus lisible, le plus maintenable, le plus supportable possible. Et toutes ces librairies avaient tendance, oui, à pousser ce que j'appelle du code ninja, hein, c'est-à-dire, je pense qu'on en a tous vu, hein, du code où... ouais, ça marche, c'est super, c'est concis, c'est très bien, mais si c'était vraiment ça qui faisait tourner l'IT aujourd'hui, je vais vous le dire, hein, on ferait tous du Perl. Et pourtant, qui fait du Perl aujourd'hui? Ça m'arrive d'en refaire de temps en temps, mais pas des masses, quoi. En Perl, on peut écrire un système d'exploitation en une ligne, moi, j'en suis persuadé.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, surtout que je suis adepte de Haskell. Et c'est vrai que c'est pas évident. Toutes les méthodes qu'on a, effectivement, on en a un paquet là-dedans avec des petites subtilités. Et on peut aussi être poussé à écrire une façon. Enfin, il y a une façon d'écrire les fonctions où on met pas les paramètres. On ne fait que de la composition de fonctions. Il y a même une espèce de défi d'essayer de le faire. Mais parfois, ça ne produit pas un code lisible. Et j'ai trouvé qu'avec Java 8, avec les streams, le stream API, en fait, venez ce défi aussi. On a plusieurs façons d'écrire le même code, la même boucle. Est-ce que je l'écris avec un for each ou avec un stream? Et c'est pas évident et je pense que ça dépend aussi des personnes. Mais donc, dans Mutiny, tu as quand même les uni et les multi, mais tu parles d'événements. C'est quoi, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux choses-là? Qu'est-ce que ça change, les uni, les multi, par rapport au flux et au mono d'autres API?
Alors, en fait, c'est juste avant, pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, moi j'aime bien utiliser le terme de monade L, parce qu'avant on avait le callback L, c'est-à-dire des callbacks imbriqués sur 40 niveaux et ça donne du code illisible. Et quand on compose comme ça des flat maps, de conquête maps, de flat map, iterable, je sais pas quoi, moi j'appelle ça le modèle L parce qu'on chaîne, voilà, plein de choses comme ça qui sont complètement complètement illisibles. Et c'est vrai que la question de la maintenabilité, elle est importante. Moi je l'ai vu quand j'ai écrit Vertex in Action chez Manning, donc je recommande Eric Java dedans parce qu'avec Vertex c'est ce qui était ce qu'on promouvait le plus à l'époque. Et c'est vrai que j'ai quelques, alors globalement je l'ai écrit pour que ce soit lisible, mais j'ai quelques morceaux de code où honnêtement je suis revenu dessus, je me suis dit mais pourquoi j'ai mis un flat map d'identity, il y a un truc à l'endroit, il y a des endroits comme ça je comprends pas très bien, je me rappelle plus pourquoi je l'ai mis, c'était, voilà, il fallait le mettre mais c'était pas forcément évident. Mais voilà, par rapport à ta question, donc effectivement, il y a Uni, Multi dans Mutiny et des événements. En fait, ce sont deux choses qui sont orthogonales parce que, en fait, il y a deux choses. Il y a Multi. Multi, c'est pour les flux. C'est pour tout ce qui est basé sur Active Streams, donc des flux d'événements asynchrones qu'on va vouloir traiter. Donc Multi, voilà, ça, c'est de zéro à l'infini d'items. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on a ce qu'on appelle de la back pressure. C'est-à-dire qu'on veut éviter le problème classique du producteur et du consommateur, avec le producteur qui canarde et le consommateur qui n'arrive pas à suivre et qui du coup va exploser, qui va bufferiser des items et donc faire exploser sa mémoire. Donc on a un protocole de back pressure dans Reactive Streams qui est très simple, qui est basé sur la demande. C'est-à-dire que le consommateur, qu'on appelle le subscriber, dit « je veux par exemple » au plus 1024 éléments, et le contrat, c'est que le publisher qui va lui renvoyer ne va pas lui envoyer plus de 1024 éléments. Enfin, il y a une demande comme ça qui se fait, qui s'accumule, et que tout le monde doit respecter. Et voilà, dans Reactive Streams, pour ça, il y a un TCK qu'on doit passer si on est compliant avec Reactive Streams. Donc, on a ce protocole de flux, et de l'autre côté, on a Uni, qui est pour des opérations asynchrones, mais qui sont des opérations unitaires. Par exemple, je fais un commit dans ma base de données, ben ça, c'est pas un flux, c'est une opération, c'est un one-shot. Si je fais une requête SQL, j'en profite pour dire que les bases de données, souvent, ne font pas de flux, ne streament pas, je dis ça comme ça, on fait un uni, et qui nous renvoie une liste de rows qui sont, en fait, ce qu'on va récupérer avec un select étoile from, par exemple. Donc voilà, on a ces deux types-là, uni, multi, qui sont, en fait, qui marchent ensemble, parce que par exemple, voilà, si j'écoute sur du Kafka, c'est plutôt un multi, donc j'ai un flux d'événements. Et puis, quand je veux insérer, par exemple, ce que j'ai lu depuis Kafka, depuis un record, vers une BD, bah, c'est un uni, parce que c'est une opération, on va dire, c'est un one-shot asynchrone, mais c'est un one-shot vers la BD. Et donc, on a ces deux API qui caractérisent donc deux types d'opérations, flux et opérations unitaires. Et puis, pour chacune, on a des événements. Donc, l'événement, c'est par exemple, je reçois un item. Donc, pour uni, bah, il y aura soit un item, soit un échec, soit une failure, une exception. Et puis pour des multi, donc des flux, on aura par exemple, 500 000 en item parce que on reçoit des événements, on traite ces événements à chaque fois. Et puis par rapport à la fin, on aura un signal qui nous dit on arrive à la fin du flux ou on a eu une erreur qui est terminale. Et quand on a cette erreur, ben voilà, après on peut avoir d'autres opérateurs qui nous permettent de faire de la recovery. Donc recommencer avec un back-off exponentiel, dire je prends l'erreur et puis finalement je la transforme. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. On peut réagir au fait qu'on vient de souscrire au flux, etc., etc. Donc c'est des événements qui sont liés en fait au cycle de vie de ce qu'on peut observer dans un flux comme ça d'événements asynchrones ou une opération asynchrone. Et juste uni, finalement, c'est un remplaçant de completion stage, finalement, qui est dans le JDK, qui est, comme Clément l'a dit tout à l'heure, c'est une API qui est extrêmement riche, completion stage, qui a aussi un défaut par rapport à ce qu'on va trouver dans Mutiny ou d'autres bibliothèques réactives, Eric Java ou Reactor, c'est que il n'y a pas forcément de cancellation qui est inclus dedans. Par exemple, je veux dire, je déclenche une opération asynchrone, et bah après j'ai pas forcément moyen de l'annuler si en fait j'en veux plus, alors que là vu qu'on est sur un modèle à la Reactive Streams, même pour uni entre guillemets, on s'abonne, donc on déclenche une opération et on reçoit une souscription, et cette souscription on peut l'utiliser pour faire de la demande, mais on peut aussi l'utiliser pour annuler si on a besoin, et ça c'est intéressant.
Alors, je voudrais juste rajouter deux, trois choses sur ce que Julien a dit. Alors déjà, le nom Mutiny vient de la contraction de multi et uni, et d'un peu d'alcool. Hop, on mélange le tout et on arrive à Mutiny. Voilà, c'est un peu comme ça. Il me fallait un nom. Alors je peux vous dire que des noms, j'en ai utilisé pas mal, mais bon, on a décidé de l'appeler comme ça. Concernant les API, donc... j'ai voulu dès le début avoir un très faible un nombre de types. C'est-à-dire, par exemple, dans RX Java, je crois qu'il y en a 5 maintenant, hein, Completable, Single, Observable, Flowable et Maybe. Là aussi, c'est difficile de savoir lequel il faut utiliser. C'est quoi la différence entre un Observable et un Flowable, ce genre de choses. Les types d'événements souscrits, par exemple entre un single et un maybe, c'est des choses qui sont un petit peu différentes. Donc bon, voilà. Donc ça rajoute une complexité. Évidemment, ça rajoute une complexité dans l'API parce que à chaque fois, typiquement si on reprend Flatmap, je vais avoir Flatmap to single, Flatmap to maybe, Flatmap. Il va y avoir une explosion du nombre de méthodes. Et justement, je voulais pas trop ça. D'un autre côté, Reactor lui a fait le choix d'avoir que deux types. Et finalement, j'aimais ce choix dans le sens en disant, oui, il y a deux types d'interactions. Il y a les interactions qui vont retourner 0 ou 1 résultat. C'est les RPC. Hein, on fait encore beaucoup de RPC. C'est le genre de choses qu'on fait, qu'on va faire. Comme Julien l'a dit, les bases de données. Il va y avoir tout ce qui va être gestion de flux où on a vraiment une séquence ordonnée d'événements. Alors, évidemment, on pense tout de suite à Kafka, on pense tout de suite à ce genre de choses, mais ça peut être d'autres choses, de la remontée de données dans de l'IoT, des builds sur un CI, donc on va avoir une séquence d'événements, ce genre de choses. Donc ouais, on peut avoir ce genre de choses assez rapidement, et donc il nous fallait un modèle pour modéliser ce genre d'interaction. Donc c'est pour ça que on allait sur ces deux types. Donc après pour parler un petit peu de back pressure, donc multi implément reactive streams tel quel, on passe le TCK sans tricherie, sans rien, c'est voilà.
Tu veux dire qu'il y a des gens qui trichent?
J'aurais pas osé, mais bon voilà. Et alors que Uni, on est parti sur quelque chose de totalement non reactive stream, c'est-à-dire que Reactive Stream, c'est quoi? Donc c'est un modèle de back pressure où, comme Julien a dit, le client, le consommateur, va dire combien d'éléments il est capable d'absorber. Oui, sauf que dans un uni, le nombre d'éléments, c'est 0 ou 1. Donc du moment qu'on déclenche, qu'on dit voilà, on est intéressé par cette opération, ça veut dire qu'on est en capacité de supporter cette opération, puisque de toute façon, c'est 0 ou 1. Donc voilà pourquoi on a fait le choix en uni de ne pas avoir le protocole de Reactive Streams, qui rajoute de la complexité, hein, croyez-moi, et de complexité à la fois en termes de code, mais à la fois en termes de performance. Et donc, dans Uni, on a dit, non, justement, là-dessus, ça ne sert à rien, donc autant aller au plus vite. Et ça évite également des optimisations qu'on voit dans certaines autres librairies ou qui ont compris le problème et qui, en fait, disent, oui, mais alors on va en faire un publisher, mais comme on sait que c'est comme ça, on va mettre des optimisations plus ou moins compliant, plus ou moins, on voulait éviter ça, parce que ça rajoute du code très obscur, pas forcément clair, donc on a dit, allez, clairement, c'était un truc, hein, je voulais quelque chose de simple à la base, et la complexité du code de Mutiny est bien moindre que les autres librairies, déjà parce que je voulais quelque chose... que j'étais capable de maintenir et capable de déléguer à quelqu'un d'autre sans qu'il perde sa santé mentale. Je ne suis pas sûr d'avoir réussi ce dernier point, mais bon.
Alors moi, j'ai une petite question, parce que le nom de Mutiny, en fait, me faisait penser à mutinerie, hein, en anglais. Et en fait, je ne pensais pas du tout donc, à la contraction des deux termes. Donc, en fait, il y a quand même derrière... il y a quelque chose de vrai, je pense. Donc finalement, c'est une sorte de révolte contre l'implémentation de notre API. C'est pas forcément mal, c'est au contraire bien. Je trouvais ça, le terme, super bien placé, en fait. Tu me confirmes ou pas? C'est un peu l'idée, en fait.
Oui et non. Oui, c'est clair qu'on voyait une extension d'un écosystème qui voulait se qui voulait dire bah, réactive le réactive dans Java c'est ça et on voyait le pas forcément le danger de ce problème de faire ça mais le ça pour nous ça n'allait pas dans la bonne direction ça allait faire tout ce que je disais au début du code ninja du code immaintenable etc et donc au final on voyait on percevait que ben ce truc là allait à un moment donné s'effondrer parce que déjà que le réactif c'est pas facile hein et clairement je suis le premier à le dire attention hein c'est pas quelque chose qu'on peut voilà là on c'était une surcharge en complexité qui le condamnait donc oui et ça c'est ce qu'on a vu dans la première année de Quarkus que en fait ça ne la mayonnaise ne prenait pas. Or, depuis le début de Quarkus, on voulait unifier réactif et impératif. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint le projet dès le tout début, quand c'était même pas public. C'était, voilà, on voulait avoir un framework, les deux possibilités, avec des bridges entre les deux. Et donc, ouais, quand on a étudié, ouais, c'était pas forcément ce qu'on voulait. Donc c'est vrai qu'il y avait un petit acte de résistance. Après, les noms des types étaient déjà connus avant. Et puis ouais, ça faisait la petite blague en disant bah oui, Mutiny, voilà, ça marche, ça passe un petit peu ce message que on voulait quelque chose de différent, on voulait quelque chose de plus simple, de plus facile à utiliser, de plus maintenable. Voilà. C'est les choix qu'on a fait.
Très bien, je trouve ça très bien. Vous parliez tout à l'heure de la complexité des méthodes et de ce que ça peut générer derrière. Pour avoir fait beaucoup de C avant, la différence entre calloc et malloc, ça me fait un peu penser à ton concatmat. Voilà. Et exactement, en fait, tu peux te prendre les pieds dans le tapis et avoir des problèmes lorsque tu t'amuses à décoder des trames et d'avoir un problème d'allocation, parce que les deux méthodes ne font pas du tout la même chose. Et en fait, effectivement, c'est bien d'avoir une API de plus haut niveau qui cache cette complexité ou complication.
Et à la fin, voilà, on reste sur ReactiveStream. C'est ça qui est important quand même de rappeler, c'est que ReactiveStream, c'est un écosystème. Il y a par exemple AK pour les gens qui aiment les acteurs, AK Stream. Enfin, voilà, c'est un écosystème de composants qui, à partir du moment où on respecte les interfaces et le protocole de ReactiveStream, peuvent se parler de manière asynchrone proprement. Donc, je peux mélanger du AK avec du Mutiny, avec du Reactor si je veux. Et puis d'ailleurs, nous dans Mutiny, on est des bons citoyens parce qu'on a on fournit des adaptateurs vers d'autres bibliothèques, donc vers Eric Java 3 aujourd'hui. Eric Java 2, on vient de le retirer parce que voilà, il commence à être daté et plus maintenu. Et vers Reactor, donc on a des ponts dans les deux sens pour adapter directement si on veut pas descendre au niveau de Reactive Streams. Mais dans Mutiny, voilà, on dit je prends un publisher Reactive Streams en paramètre, j'en fais un multi. Et après, j'utilise l'API du Mutiny pour traiter les événements dessus.
Ouais, j'ai entendu Nicolas me tendre la perche pour parler de Knevin. Ce dont j'ai l'impression, c'est qu'en fait, voilà, il y avait un besoin qui arrivait dans le marché, c'est sur cette notion de programmation réactive non bloquante, qu'on puisse avoir plus de bandes passantes en fait, sans nécessairement faire exploser le nombre de fils d'exécution qu'on a dans son application. Ça, on ne savait pas nécessairement exactement quel modèle était le mieux à choisir, donc Reactif et d'autres projets ont fourni un modèle assez ouvert, assez permissif, avec plein de méthodes, plein de choix, parce qu'en fait on ne savait pas nécessairement c'était quoi qu'il fallait donner. Avec le temps, vous avez vu que, en fait, il y avait certaines patterns qui n'étaient pas très bien compris et certains patterns qui étaient les plus utilisés. Et donc, finalement, vous avez dit, allez, on va simplifier les cas qui, finalement, sont les plus utiles, c'est ça ?
On veut rendre la chose approchable. C'est vraiment l'idée, c'est le code que je veux... Enfin, en fait, on est sorti d'une sémantique, on va dire, de programmation fonctionnelle parce que vraiment, tout l'écosystème avait convergé là-dessus. Avec Eric Java et Reactor qui étaient les deux principaux et qui étaient, en plus, enfin, il faut le dire, ils ont une base de code en interne extrêmement commune. Voilà, les projets sont quand même très très communs. Enfin, voilà, ils sont vraiment très très proches historiquement, même si depuis ça a un peu divergé. Nous, ce qu'on a voulu, c'est pas avoir cette sémantique de programmation fonctionnelle parce que tout le monde n'a pas un bagage de programmation fonctionnelle. Et au contraire, nous, on a une API qui est un peu plus verbeuse. mais qui dit quand tu as une erreur, fais ceci, etc. Donc quelque chose, voilà, qui est... On n'est pas en train de dire fais un flat map sur ton erreur ou, un, ou autre chose. On dit non. Quand tu as une erreur, tu fais ceci. Par exemple, si on veut faire un retry avec un backoff exponentiel, c'est retry with exponential backoff. Hein. On a quelque chose, voilà. Si je reviens 6 mois après sur le code et que j'ai pas cherché, comme disait Clément, à faire le ninja, le super warrior du code, en principe, j'arrive à le relire. Et puis voilà, on a une façon d'écrire du code en Mutiny, on explique comment organiser les, donc c'est une API qui est assez fluide, assez fluente, comme on dit. Voilà, on a des patterns, on met plutôt sur une ligne les choses, une façon d'indenter que nous-mêmes on monte dans nos exemples. Et quand on suit ça, voilà, on a quelque chose qui se relie. Et c'est vraiment l'objectif. Donc,
Les terminologies aussi, en fait, ont changé. C'est plus quelque chose, les rouages internes. Finalement, c'est une terminologie qui est presque plus métier. C'est
exactement.
Quelle est la finalité que tu attends d'avoir?
Exactement. Et vraiment sur un modèle d'événement.
C'est vraiment ça. C'est le code qu'on écrit dans 90% du cas, à part si on fait des frameworks, si on fait du middleware. Dans la plupart du code que les gens écrivent, c'est du code métier. Et si ton code métier il est noyé dans du code, dans un truc, finalement, est-ce que tu comprends encore le code métier? Et le code métier, c'est souvent complexe parce que c'est un peu le truc, hein. C'est souvent, il y a des règles, c'est un vocabulaire qui est complètement différent. Et on voulait, le mettre que le métier soit le plus apparent possible. Et en fait, quand on regarde un peu comment sont faits, comment on design les applications aujourd'hui, il y a plein de nouveaux. C'est vraiment des workshops, hein, des activités de brainstorming, etc., qui sont en train d'être faites. Et il y en a beaucoup qui reprennent l'idée de process, événements, etc., etc. Et c'est un des points que j'avais eu au tout début, juste avant que je commence Mutiny, j'avais fait ce genre de workshop et j'avais dit, tiens, c'est marrant, parce que là, sur mon tableau, j'ai mes composants, j'ai les événements d'entrée, les événements de sortie, et au final, mon code, je peux pratiquement le décliner à partir de ça. Et c'est comme on avait ces événements métiers, je me suis dit, c'est ça que le code doit gérer. C'est new payment, quand j'ai un nouveau paiement, je vais faire ça. Quand mon colis est livré, je vais faire ça, etc., etc. Quand il y a une erreur de traitement, je fais ça. C'était vraiment ça que je voulais exprimer. Et en fait, la plupart des méthodologies de design actuelles vont reprendre ce genre d'idée. C'est-à-dire, sur ce tel événement, je fais ça. Sur tel événement, je fais ça. Donc, en fait, la translation est assez je dirais pas évidente, hein. Il y a toujours des cas, ah oui, mais alors là, comment je vais faire? Mais bon, c'était un peu l'idée.
Oui, et avec vos passerelles vers d'autres API, finalement, quand il y a des cas particuliers, les gens, ils sont capables d'aller chercher le niveau d'abstraction pour aller implémenter spécifiquement leur truc, c'est ça?
Alors, on a rarement ce cas-là. Le cas de pourquoi on a notre notion de converteur, c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui ont des codebases existantes et qui doivent appeler des choses qui sont écrites dans d'autres librairies. Donc on a ce genre là. Mais au fur et à mesure, même si au début on est démarré sur quelque chose d'assez petit, au fur et à mesure, avec les discussions avec les utilisateurs, avec les cas, nos clients, etc., on a enrichi. Et on a rarement le cas où la personne dit « Ah oui, il me faut absolument cet opérateur-là, il existe dans tel truc et vous l'avez pas. » Souvent, c'est le genre d'opérateur qui aurait jamais dû être créé dans tel truc, hein, par exemple faire du calcul parallèle ou ce genre de choses. C'est pas du tout le rôle de programmation réactive de faire ça. Et dans ce cas-là, on dit non mais en fait le use case est pas bon, il faut le redéfinir un petit peu mieux. Et souvent, il y a du gain à la fin, hein, en termes de simplicité et même souvent en termes de performance, en réécrivant, en rediscutant, en disant voilà ce que vous voulez faire, voilà comment il faut l'écrire.
Et souvent, on recadre en fait ce que doit être l'usage de Mutiny, tu vois. C'est un peu ce que Clément a dit, mais utiliser un truc basé sur Active Streams pour faire des choses qui ne sont pas basées sur des entrées-sorties, donc de l'asynchrone d'IO, bah, c'est juste pas fait pour. ActiveStream n'a pas été fait pour ça. Il a été fait pour donc pas du calcul parallèle, pas du calcul concurrent. Dans Java, ouais, il y a JavaStream, par exemple, la API de JavaStream, elle est faite pour ça. Il y a ForkJoin dans Java, il y a plein de choses pour faire des choses qui sont CPU bound, donc du calcul, du parallèle, du concurrent. ReactiveStream, c'est de la mécanique pour coordonner des opérations asynchrones et que ça ait du sens, parce qu'on n'est pas en train de l'écrire en impératif. Et donc voilà, on veut être capable de que ces choses-là, la gestion d'erreurs, la gestion de nos flux soient correctes. Donc on essaie aussi souvent de dire attention, essayez pas d'utiliser Mutiny pour ce qui n'est pas son environnement naturel, j'ai envie de dire, qui sont les opérations asynchrones IO.
Oui, en fait, c'est exactement ça. Encore une fois, je vais revenir à Quarkus, mais donc l'idée, c'était de faire des meilleurs systèmes distribués. On est dans un monde, c'était vrai il y a 3 ans, c'est encore vrai aujourd'hui, mais bon, le microservice, tout le monde en entend parler, on y va vraiment dessus. Le monde des API Gateway, le monde des événements voilà, à gérer. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de codes, d'applications qui ont des entrées-sorties. C'est-à-dire, je reçois des requêtes, ça peut être HTTP, je reçois des événements et je dois faire ça, 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 je dois écrire dans une base de données, je dois en appeler tel service, etc. Et pour faire ça, il y a plusieurs manières. On peut faire une API totalement impérative, bloquante. Et là, comme William l'a dit, on va avoir un problème de... Ben, il nous faut des threads pour gérer la concurrence. Les threads, c'est pas forcément gratuit. Même s'il y a des virtual threads qui arrivent en Java, il y a quand même encore beaucoup de pièges qui peuvent arriver. Et juste là-dessus, il y a Heinz Kabutz qui a publié un super blog post sur oui, les virtual threads peuvent deadlocker. Et quand il y en a 1 million, vous allez kiffer le débugage de deadlock. Mais bon, voilà. Donc, dans Quarkus, nous, on a ce moteur réactif qui part du principe, on a des IO threads, très peu de threads, mais derrière, il faut écrire du code qui va dire, ben, sur tel truc, je fais ça, mais quand je fais rien, j'utilise rien. C'est-à-dire, quand j'attends quelque chose, je n'utilise pas de thread, j'ai pas de thread qui m'est dédié. Ce qui veut dire que je vais avoir un niveau de concurrence bien plus haut et un niveau d'utilisation de ressources bien plus bas. Alors, pourquoi cette notion d'utilisation de ressources est intéressante, est importante aujourd'hui? Il y a beaucoup d'applications qui sont développées sur le cloud. Cloud public, Amazon, Google, ce que vous voulez, hein, Microsoft, ou cloud privé, alors ça peut être du Mesos, ça peut être du Cube, ça peut être du Docker, etc. Dans les deux cas, l'utilisation de ressources est critique. Dans le premier cas, à la fin du mois, il faut que vous payiez. Eh ouais, c'est comme ça. Et moins vous utilisez de ressources, moins vous payez. C'est toujours intéressant. Dans le cas d'un cloud privé, vous payez peut-être pas forcément parce que vos ressources sont dédiées, mais vous, votre intérêt, c'est de pouvoir mettre un maximum d'applications sur ces ressources-là. Si vos applications, elles commencent à être dégorées en ressources, ben à la fin, vous allez en mettre 4. Si vous faites un peu attention, ben vous allez en mettre 8. Et si vous faites vraiment attention, vous allez peut-être en mettre 100. Ah, mais c'est pas la même chose. Parce que sur la même infrastructure, mettre 4 applications ou 40 applications ou plus, ben là, il y a un vrai intérêt. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déployer plus, même peut-être avoir plus de versions en parallèle, bah, ça ouvre de tas de possibilités qui étaient contraintes par de l'infrastructure de base. Voilà. Donc là, il y a un deuxième vrai intérêt. Donc, l'histoire qu'on a voulu écrire, c'est vraiment ça. Quarkus, c'est fait pour ce genre de choses. Il y a un cœur réactif. Il nous fallait une API pour faire ça bien intelligemment, mais que ça soit maintenable, parce que l'idée, c'est quand même que ça soit utilisé par un maximum de développeurs. Et donc, on a créé Mutiny pour ça, mais la relation est, voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Et depuis, l'API de prédilection dans Quarkus, hein, quand on fait du réactif, c'est Mutiny. Et aujourd'hui, ça marche vraiment bien. On a plein de bons retours. On a, voilà, les gens. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que après quelques mois de quand on l'a poussé, j'ai eu des mails où les gens me disaient, je vous remercie, j'ai enfin pu écrire du code réactif. J'avais essayé avant, j'avais jamais réussi. Maintenant, on a des vrais gains en termes de densité dans ce cas-là. Ça nous a permis d'aller de passer cette étape-là et d'aller plus loin. Et pour notre business, dans leur business, pour eux, c'était clé. Donc voilà, c'est moi ça m'a fait très plaisir, c'est ce qui me motive encore de continuer dans cette histoire là. C'est pas forcément une histoire, c'est plutôt un voyage, parce qu'on n'est pas encore à la fin, hein, on a encore quelques trucs à faire.
Et donc la performance, c'est quelque chose qui est un objectif, c'est quelque chose que vous suivez, que vous comparez avec d'autres, vous avez des benchmarks, etc.
Ouais, alors en fait on a publié un article de recherche à l'automne dernier, où effectivement en fait on a discuté, on va dire, des performances de Mutiny et d'autres bibliothèques de programmation réactive en Java. Donc on s'est comparé avec Java Reactor, on a essayé d'analyser un petit peu tout ça. Alors d'où ça vient ? Donc moi quand j'ai rejoint Mutiny, j'ai commencé à apporter ma patte sur les API, j'ai commencé à rentrer dans le code, commencé à implémenter, et puis assez vite je me suis dit bon, je vais faire un travail de perf pour voir comment réduire les stack trace, gagner en perf un peu à droite à gauche.
Juste avant ça, je voulais juste te dire, moi au début quand j'ai commencé Mutiny, je voulais vraiment travailler sur le côté API, ouais. Pas du tout perf. Donc perf pour moi c'était, ouais c'est pas grave, je verrai plus tard. Mettre des optimisations avant de mesurer, ça n'a aucun sens. D'abord je voulais avoir un truc complet, voir les premiers résultats, et puis ensuite bon, ben, on verra. Et c'est à ce moment-là que Julien est arrivé, et donc oui, la perf commençait à devenir un point qu'on voulait voir, mais avant d'optimiser pour optimiser, il fallait surtout se situer.
Et déjà, voilà, ce qui était bien, c'est que Mutiny passait le TCK de Reactive Streams, ce qui était quand même important, il était fidèle à Reactive Streams, et très sincèrement, voilà, c'est pas hyper... Enfin, c'est une base de code qui est quand même... Ça reste très technique, très difficile, mais on rentre dedans, on arrive finalement à comprendre les... En quelques jours, on comprend la philosophie de comment on écrit un opérateur, comment cette tuyauterie fonctionne. Donc voilà, j'étais assez confiant là-dedans, mais je voulais voir effectivement au niveau perf, qu'est-ce qu'on peut gratter. Alors j'ai eu tout un batch de premières optimisations. On a commencé à gagner assez vite en allocation, en choses comme ça. Donc ça améliorait les perfs. Mais pour faire ça, j'ai été obligé de faire, faire des benchmarks, parce qu'effectivement, il y avait absolument rien dans l'écosystème. Et c'est forcément difficile de faire un benchmark parce qu'on peut toujours critiquer le benchmark qui est fait. Et il n'y a pas exactement les mêmes opérateurs dans toutes les bibliothèques, et puis il y en a plein. Donc j'ai pris des choses qui sont représentatives, c'est-à-dire je vais filtrer des éléments, je vais les transformer de manière synchrone, de manière asynchrone. Enfin voilà, j'ai pas cherché à avoir tous les opérateurs tout comparés, mais faire les quelques opérateurs principaux et puis des motifs d'usage, on va dire, assez classiques, genre. Je filtre un élément, je transforme, puis je le retransforme. À la fin, ça définit mon pipeline, quoi. Donc j'ai fait ce travail, et puis derrière, ça m'a fait germer l'idée de se dire bon, il faut qu'on fasse un papier, parce qu'en même temps, on avait aussi des discussions. Donc ce qu'a dit Clément est très très juste, c'est-à-dire que c'est une base de code qui visait d'abord la simplicité, clairement, et pas l'optimisation dès le début. Et à côté, donc on avait Eric Java qui avait lancé dans Eric Java 2 des optimisations vraiment très fortes, qu'on retrouve étrangement dans Reactor, mais c'est normal parce que c'est à peu près la même base de code au moment où Reactor apparaît. Et en fait, il y a deux types d'optimisations qu'on trouvait. C'est-à-dire, la première, c'est la fusion d'opérateurs, c'est-à-dire dire si par exemple j'ai un filter suivi d'un map, je vais essayer de les fusionner. Je vais essayer de partager des fils quand il y a des fils parce qu'on a des buffers. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça, d'optimisation. Et puis il y a aussi de la relaxation de protocole. C'est très joli comme nom. Mais ça veut juste dire, en fait, entre opérateurs de la même bibliothèque, on se permet de pas respecter Reactive Streams parce qu'on est entre nous. Ce qui est extrêmement marrant parce que ça empêche... c'est très malin, je veux dire. Ça évite certains appels de méthodes. Ça fait... effectivement... D'un point de vue purement CPU bound, effectivement, ça permet de gagner en, entre guillemets, en performance. Et donc, on se posait la question à ce moment-là, dans les discussions, est-ce qu'on devrait faire ce genre de choses dans Mutiny? Et moi, le réflexe que j'ai eu, c'est de dire, bon, ça coûte combien toutes ces plaisanteries? Parce que, grosso modo, on est deux à travailler activement sur ce projet. Est-ce que ça a du sens de rentrer là-dedans? Parce que quand on rentre dans le code d'Eric Java Reactor et comprendre comment ils ont fait toutes leurs optimisations, honnêtement, c'est du code qui est complexe. Il y a des branchements dans tous les sens. Est-ce qu'on est en train de faire de la fusion? Il y a des branches de code. Est-ce qu'on n'est pas dans la fusion? Il y a d'autres branches de code. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on fait des benchmarks, très vite, je me suis dit, il faut que j'ai un publisher au début et un subscriber à la fin qui ne viennent d'aucune bibliothèque, qui soit vraiment pure et Active Streams, parce que sinon, on commence à faire de la fusion de bout en bout. Et ça donne des trucs, on mesure vraiment n'importe quoi. Donc voilà, on est rentré là-dedans, on s'est posé ces questions, puis voilà, je me suis dit, ok, on va mesurer tout ça, on va essayer de voir si est-ce que c'est représentatif finalement, est-ce que vraiment ces optimisations sont efficaces. Et il y en a même une autre d'ailleurs qui était marrante, c'est du prefetching, c'est-à-dire qu'un opérateur de lui-même dit, bah je vais demander un peu plus au cas où on me demande après des éléments, donc il anticipe un peu la demande en faisant du prefetch. Comme ça, quand on lui demande des éléments, par exemple, si on les fait un par un, bah du coup, il les a déjà en mémoire et il peut les donner. Et en fait, assez vite, quand on fait des... Alors, il y a deux types. Dans ce papier qu'on a publié, qui est un article, donc qui a été relu par des scientifiques, hein, c'est pas un papier, c'est pas un, comment dire, un white paper, c'est pas un papier qu'on a sorti comme un blog post, c'est un article de recherche qui a été validé. Il y a une démarche expérimentale qui est reproductible. Enfin voilà, on a fait un vrai travail scientifique. Et donc il y a des benchmarks qui sont CPU bound où là ce sont des choses purement en mémoire, donc c'est pas pour ça qu'il fait Reactive Streams, mais on voit finalement les gains là-dessus, on voit très bien les gains donc des optimisations d'Eric Java et Reactor, on les voit très bien, c'est très marginal honnêtement, il y a un écart qui est négligeable, mais si on voulait faire vraiment du CPU bound, il y a un petit écart qui peut être intéressant, mais bon, si on compare à Java Streams ou de l'impératif, honnêtement faut pas utiliser ces bibliothèques parce que c'est du x2, x3, je sais plus, je l'ai plus en tête, mais voilà, le coût du protocole Reactive Streams pour traiter des choses en mémoire, il est vraiment dingue. Donc voilà, faites du Java Streams, faites de l'impératif quand c'est du calcul, c'est juste ça qu'il faut faire, c'est pas Reactive Streams parce qu'il y a un overhead à cause du protocole qui est complexe, qui est vraiment là. Et alors là où ça devient vraiment par contre très très drôle, c'est quand on fait des benchmarks avec des entrées-sorties asynchrones. Et ce pourquoi est fait Reactive Streams, c'est vraiment la raison d'être de Reactive Streams. Et là, on se rend compte que toutes les jolies optimisations, et si on a en tête d'ailleurs les ordres de grandeur des opérations d'entrée-sortie versus faire des écritures en mémoire, les lectures de cache sur les CPU, donc si on a bien en tête les ordres de grandeur de tout ça, on peut se dire qu'on risque de rien gagner avec ces optimisations. Et bien oui, c'est le cas, on s'en est rendu compte dans le papier, on ne gagne absolument rien. Avec toutes ces optimisations, parce que ce sont les entrées-sorties qui dominent. Et c'est vraiment ça le résultat principal. Donc, c'est plein de belles optimisations d'un point de vue engineering, c'est génial, c'est super marrant, mais en termes de perf, ça apporte rien. Et l'autre mesure qu'on a mis en balance finalement dans le papier, c'est le coût. C'est-à-dire, quel est le coût ? Quelle est la complexité du code ? Donc là, on a des mesures qui sont des choses un peu classiques. De complexité cyclomatique, par ligne de. Enfin, on a des métriques de base assez simples, mais là, c'est pareil, on se rend compte ce que ça coûte de maintenir des bases de code comme ça, c'est absolument dingue. Et dans Mutiny, on a un truc, là, on n'a pas cherché à faire de l'optimisation hyper poussée, mais on arrive à un niveau good enough. Donc même sur du CPU bound, on a des résultats qui sont corrects, on pourrait gratter plus, mais si on veut gratter plus, ça va, c'est pas le même budget pour développer et maintenir cette bibliothèque. Et voilà, et finalement je trouve que c'est un peu la belle histoire, c'est-à-dire qu'on a une bibliothèque, on veut qu'elle soit simple pour nos utilisateurs, on veut que ce soit compréhensible, mais on a un peu ce même souci sur le code en lui-même, c'est-à-dire qu'on veut, voilà, si on se fait écraser tous les deux par un bus, ce que je souhaite pas Clément, ni pour toi, ni pour moi, bon, quelqu'un, vous devrez pouvoir le reprendre assez facilement. J'ai quelques doutes, par contre, pour des bibliothèques de l'écosystème Java, clairement.
Mais est-ce que... Ouais, je trouve que c'est vachement bien, cette démarche papier scientifique validée par les pairs. Dans la communauté agile dans laquelle je baigne depuis pas mal de temps, on parle beaucoup d'empirisme, mais je trouve que cet empirisme n'est pas du tout celui qu'on retrouve dans la méthode scientifique en vrai. Est-ce que quand même ces autres bibliothèques, ce n'était pas une passerelle nécessaire pour trouver cette simplicité ? On prône beaucoup la simplicité dans notre code, mais parfois c'est très difficile de le faire du premier coup. Est-ce que vous avez quand même gagné quelque chose grâce à l'expérience de ces autres bibliothèques ?
Alors là, totalement. C'est totalement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait pas pu faire Mutiny si on n'avait pas eu Reactor, ActJava, Akka Streams et même des choses autour de plus loin, Eiffel, Erlang, etc. Avant. Les choses sont claires, nettes et précises. Il a fallu, moi je suis comme Julien, on est des scientifiques à la base. Julien, c'est plus dans son passé proche, moi c'est plus un passé lointain maintenant. Mais il y avait toute une littérature à reprendre, à essayer de comprendre. Voilà, et on a fait ce travail, moi j'ai fait ce travail en amont en essayant de voir où il fallait aller, mais sans tout ce travail là oui, on n'aurait pas pu faire ça, essayer de comprendre où fallait aller, qu'est-ce qui était utilisé, quels étaient les patterns d'utilisation les plus communs, lire tout ça, voilà, toute l'expérience qu'ils avaient eu, les raisons du Reactive Streams, de la spec, les discussions sur tous les tests du TCK. Tout ça, ça nous a énormément apporté. Donc oui, c'est sûr, c'est toujours plus facile de faire mieux quand on arrive après. C'est exactement ça.
Donc, je pense que cet article, de temps en temps, c'est difficile de se plonger dans un article scientifique, mais je pense que de temps en temps, ça peut faire du bien de voir un peu le formalisme qu'on y met. Tout de même, vous avez réussi à placer des Pac-Man. Je trouve que c'est vraiment très bien dans les schémas.
T'as vu. Hein.
et je voulais savoir, est-ce que vous avez utilisé LaTeX pour rédiger l'article ?
Bien sûr. Moi, en tant qu'universitaire repenti, je ne peux que faire du LaTeX. Je vais être obligé de suivre une formation pour faire du Word parce que je suis pas spécialiste des idiomes de Word, mais oui, LaTeX, évidemment.
Alors là-dessus, c'est là où on a une énorme dissension entre Julien et moi, c'est-à-dire que je suis incapable de compiler du LaTeX, mais voilà. Mais je maîtrise Word à la perfection.
Nico et moi, on a eu un petit vécu aussi ensemble. J'ai dû faire une pipeline sur GitLab CI pour que tout le monde puisse pousser leur code LaTeX et que ça produise un PDF.
Oui, pour les slides de formation.
Ouais, après je t'avouerai que quand l'éditeur te dit alors il faut que les colonnes de référence soient équilibrées à la fin et que tu te retrouves à insérer un saut de ligne à la main dans la bibliographie qui est elle-même générée, bon, c'est là où tu te dis c'est un peu moche, mais quand même pour tout le reste c'est vachement bien, c'est LaTeX. Il y a un côté syndrome de Stockholm avec LaTeX qu'il faut pas nier, quoi.
Je me souviens de hack où il a fallu mettre des mid-jump, etc. pour que ça passe la validation du publisher, c'est tout ce qui m'a... énervé autour de LaTeX. Ouais.
L'espace négatif aussi, c'est ça.
Voilà, ouais, pour réduire l'écart entre les lignes, pour que ça rentre. C'est presque comme un langage de programmation. Au bout d'un moment, il y a des constructions pour en abuser et voilà. Donc ça me plaisait pas forcément. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, j'avoue, si je devais écrire, on en écrit de temps en temps, je me plonge plus sur un truc comme Markdown ou AsciiDoc, et ensuite je refile ça à Julien. Julien, il fait sa LaTeXisation, et voilà.
Ouais, AsciiDoctor, c'est vraiment pas mal. Je voulais parler aussi d'une autre expérience de Nico et moi par le passé avec Vertex, c'est comment tester de manière automatisée ce genre de choses. On s'était rendu compte avec une petite session de pair programming, Nico et moi, que c'était pas évident. Est-ce que vous avez des choses particulières ? Est-ce que vous avez un peu pensé, vous êtes penché un peu sur ces considérations-là ?
Bien sûr, ouais. Alors en fait, ce qui est le premier truc en fait qui surprend les gens, ça nous est arrivé aussi la première fois qu'on a fait de l'asynchrone, hein, c'est que les frameworks de test, que ce soit JUnit ou autre, ils sont tous pensés avec cette idée que finalement ma méthode de test, elle est appelée depuis le thread du runner en fait des tests, quoi. Et le code et donc du coup l'idée c'est que voilà, quand je fais de l'impératif, je fais mes assertions et puis quand je quitte la méthode, j'ai quitté mon test, il s'est rien passé, j'ai réussi. Pour la synchrone c'est différent parce que le code qu'on écrit dans la méthode en fait, il prépare les traitements asynchrones, il les démarre, par exemple, il crée une requête HTTP, il lance un serveur HTTP, etc. Mais on va arriver à la fin de la méthode et le code ne s'est pas encore exécuté puisque c'est asynchrone. Donc on doit attendre, etc. Il faut finalement, au niveau des supports de test, faire attendre le thread principal pour que ce qui va se passer sur d'autres threads, parce que c'est asynchrone, puisse exécuter. Alors pour ça, il y a différentes, il y a des choses dans Mutiny, il y a des choses dans Vertex, puis dans Quarkus. Pour Vertex, moi j'avais fait le support JUnit 5, sur lequel d'ailleurs il faudrait peut-être remettre un petit coup de peinture par rapport à ce qui est devenu Vertex et JUnit 5.
Et juste pour ça, JUnit 5 a été bien repensé pour pouvoir gérer ce asynchrone, il a les bons plugs, les bonnes extensions, ben voilà, il a les bons hooks pour, voilà, pour faire les hooks corrects, et ça a énormément aidé pour écrire encore du code Unit 4 ou même TestNG. Ouais, Unit 5, c'est juste un monde d'après, quoi.
Ah, c'est très très composable. Donc voilà, avec effectivement Unit 5 ou autre, il y a moyen de faire attendre assez facilement le thread principal pour que des assertions se passent dans d'autres threads et puis nous notifient. Donc il faut quand même, au niveau API, il y a un petit peu de glue pour qu'il y ait des objets qui permettent de recevoir l'information qu'on a réussi ou échoué à tous les checkpoints, toutes les assertions. Et puis dans Mutiny, on a des subscribers, donc qui vont s'abonner à des publishers et qui nous permettent d'observer les événements, donc vérifier est-ce que j'ai complété, est-ce que j'ai une failure, est-ce que j'ai reçu mes événements. On a même aussi des espions qu'on a appelés les spies. Qui nous permettent de dire tu vas espionner sur tel ou tel événement un publisher. Par exemple, tu vas observer ses émissions d'items ou de failures ou ce qui se passe avec la gestion de la demande. Et puis après, on peut inspecter en fait tout ce qui s'est passé et du coup écrire des assertions qui nous permettent dans les tests unitaires de vérifier si les choses se sont bien passées. Donc oui, on a des choses. Le test, c'est extrêmement important, bien sûr, quand on écrit du code. On essaie d'amener des choses. C'est un petit peu différent. Mais c'est comme quand on rentre dans l'asynchrone la première fois, finalement. Il faut comprendre d'autres idiomes et rentrer dans une philosophie un petit peu différente. Mais voilà, avec un petit peu d'outillage, je trouve qu'on n'y arrive pas trop mal, quoi. Même si on peut toujours faire mieux.
Oui, après, il y a toujours le cas, et j'avoue, je l'utilise encore énormément, c'est d'écrire son pipeline asynchrone, etc., particulièrement avec Uni, et dans le test, de faire un await. C'est-à-dire attendre le résultat, at most, parce que bon, on veut un timeout, on veut pas attendre, voilà. Donc on repasse sur un mode impératif, mais ça fonctionne très très bien, et dans 90% des cas, ça va faire le boulot. Après, les spies, les subscribers, c'est vraiment si on veut aller vraiment finement. Et ça me rappelle une histoire, c'était il y a quelques années, j'étais encore sur Vertex, où il y a quelqu'un qui m'a sorti, oui, je comprends pas, Vertex, il y a un comportement différent en test et en prod. Tiens, c'est quand même bizarre ça, un comportement différent. C'était donc quelqu'un qui faisait du TDD, un grand, voilà, il voulait forcément faire du TDD, donc il avait écrit ses tests sans forcément comprendre l'asynchrone. Donc en fait, il avait fait ses tests avec ses callbacks, avec ses assertions dans ses callbacks, et puis ça avec un add test, etc. Et les tests sont passés du premier coup. Oui, évidemment, rien ne s'est exécuté. Et évidemment, bah, quand ils sont rentrés en prod, et que le code s'exécutait, ben ça marchait beaucoup beaucoup moins bien. Et voilà, donc ouais, c'est sûr, c'est ce que Julien disait. À des moments, oui, au début ça peut surprendre, mais après quand on comprend, oui, en fait mon test il s'exécutait pas du tout, donc il checkait rien. Donc ouais, j'avais tous mes tests verts, mais voilà. Donc ouais, le TDD ça marche que si au début les tests sont rouges. Hein. Si les tests sont verts dès le début, il y a anguille sous roche. Tu as parlé de Vertex, quelque chose que je voulais rajouter. On a beaucoup de questions sur la relation entre Mutiny et Vertex. J'ai même eu la question en disant, est-ce que Mutiny vise à remplacer Vertex? Ouais, bah non, c'est justement pas du tout ça. Dans Quarkus, encore une fois, on a un cœur réactif. Ce cœur réactif, c'est Vertex et Netty, et voilà. Mais l'API qu'on fournit, elle est Mutiny. Alors, comment ça se passe? En fait, Vertex, depuis très très longtemps, depuis même Vertex 2, c'est fourni une manière de traduire des API. C'est-à-dire, on a les API de base de Vertex, qui sont basées sur des callbacks ou des futures, voilà. Donc ça, c'est des API de base. Et à partir de ça, on a des translators, des code générateurs, je crois que c'est ça le vrai terme, hein, c'est CodeGen, le framework qu'on utilise, qui va prendre ces API et donc... générer des API en utilisant d'autres idiomes, donc ça peut être Rich Java, ou ça peut être Kotlin, ou ça peut être alors on le fait un peu moins avant, mais on faisait des choses où on allait générer du code Ruby, JRuby, ou du code Groovy, ou ce genre de choses. Et en fait, il y a un compagnon au projet Mutiny, qui est le Vertex Mutiny Bindings, qui font exactement ce travail-là, c'est-à-dire qu'ils prennent l'ensemble des API Vertex, de tout l'écosystème Vertex, et qu'ils les traduisent en API Mutiny avec les choix qu'on a fait. Donc voilà, quand ça retourne une feature, on retourne un uni, quand c'est un stream, on retourne un multi, et des règles d'adaptation comme ça. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on a des API Mutiny pour l'intégralité de l'écosystème Vertex, qui est clairement énorme, qui est probablement un des écosystèmes réactifs Java les plus grands, les plus constants, les plus maintenus également. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on insère dans Quarkus, et c'est ça qui nous permet. Mais à la base, ça reste du code Vertex de base. Ce qui va gérer les I.O., qui va gérer les trucs. Nous, c'est juste la couche qui va traduire une uni en eti machin chose et l'inverse.
Alors là, tu me donnes plein d'explications sur, en gros, l'intégration de Vertex et Quarkus. En fait, je comprends beaucoup mieux maintenant comment l'un s'intègre dans l'autre grâce à Mutiny. En fait.
Voilà, donc au cœur, c'est Vertex et Netty. Et au-dessus de ça, on a toutes nos API qui sont Mutiny. Donc, on a ce code générateur qui nous permet d'avoir toutes ces API Mutiny. Voilà.
Maintenant, si tu prends le vénérable Hibernate, que tout le monde connaît, on a Hibernate Reactive aujourd'hui.
C'était ma question.
Et bien, en fait, c'est les drivers de Vertex, les drivers réactifs de Vertex, qui sont des implémentations depuis les protocoles réseau, tu vois, par exemple, quel est le protocole réseau de Postgres? Bah, il y a un protocole, il a été implémenté de manière réactive avec, dans Vertex, pareil pour DB2, Microsoft SQL, etc. Donc, on a ces drivers réactifs de Vertex, ils sont intégrés dans Hibernate Reactive. Et puis, Hibernate Reactive t'offre du Mutiny. Enfin, voilà, tout ça peut se composer. Tu peux d'ailleurs utiliser Hibernate Reactive en dehors de Quarkus. Hein. Dans Vertex, moi, j'ai plein de démos où tu fais ça. Tu démarres tes containers, même si tu as envie. Enfin, il n'y a rien de très compliqué. C'est juste que dans Quarkus, tout ça est emballé dans une vision de framework, donc extrêmement cohérent, extrêmement cohésif, avec beaucoup de conventions. Mais ce sont des briques voilà, qui marchent vraiment très, très bien ensemble et qui sont pensées pour travailler ensemble.
Donc, il y avait cette histoire de driver réactif que Julien vient de mentionner, et Julien a dit le terme exact. Ces drivers sont bâtis à partir du protocole. C'est-à-dire qu'on a regardé les protocoles, MySQL, Postgres, Oracle, DB2, etc., qui sont très très similaires les uns avec les autres, parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire des bases de données, tous ces gens-là qui ont fait ces trucs-là, en fait, ils sont tous allés à la même université. Et ils se connaissent tous, hein, donc voilà. Et donc après, ils ont tous monté des boîtes différentes, mais bon, voilà. Mais l'idée est, les protocoles se ressemblent extraordinairement. Et c'est quand on a regardé ces protocoles-là qu'on s'est aperçu qu'en fait, ces protocoles, ces protocoles, ils ont été designés au début des années 90, plus ou moins. Et ils ont gardé cette nature des années 90 où c'était vraiment du command reply, request reply, etc. Et c'est quand on a regardé ces protocoles-là qu'on s'est aperçu, mais en fait, toutes ces bases de données, elles streament pas. Elles ne savent pas streamer. Le streaming sur une base de données classique, relationnelle, encore une fois, ça va demander de garder des connexions ouvertes, des fois même de garder des transactions ouvertes. Ben, c'est excessivement cher. Et un des points qui a été, des décisions qui a été faites dans Vertex, mais également dans Hibernate Reactive, avec le contrôle des gens de Hibernate, hein, donc Gavin King, Sané, etc., donc des gens qui maîtrisent un tout petit peu ce que c'est qu'une base de données, qui ont fait plus de 20 ans de base de données derrière eux, donc ils savent, ils ont été d'accord avec nous en disant, bah oui, en fait, si l'API qu'on exposait était une API de streaming, qu'on masquait du streaming, en fait, on offre la manière la plus simple de tuer votre application. C'est-à-dire que les gens, ils vont dire, ah, mais c'est trop bien, je vais pouvoir faire du stream. Oui, sauf que la complexité et l'adaptation, parce que le protocole ne le supporte pas, ça va masquer un tas de trade-offs, un tas de choix qui vont être faits, et au final, ton application, elle sera très très peu concurrente, elle va avoir des tas et des tas de soucis, et nous, l'analyse qu'on a faite en partant du protocole, c'est de dire, ah bah ouais, mais alors aujourd'hui, on peut pas. Donc, si vous voulez, l'API de base, elle est request reply, unie de liste, unie de ce genre de choses. Si vous voulez faire du streaming, vous avez la possibilité, avec le big warning, attention, vous allez là-dessus, il faut comprendre ce qui se passe en dessous. Et ça nous a été confirmé donc pour Postgres, pour Oracle, parce qu'on a des discussions avec eux également, voilà, et par les gens d'Hibernate. Et c'est pour ça, on a souvent cette question de pourquoi on n'a pas suivi R2DBC, etc. Ben, la raison, elle est là. La raison, c'est qu'en fait, en regardant en dessous, encore une fois, il faut éviter de donner une manière à nos utilisateurs de se tirer une balle dans le pied.
Et d'ailleurs, si vous regardez R2DBC, alors je suis pas là pour taper sur R2DBC, hein, Mais quand vous prenez la PI, tout est publisher. Donc, vous voulez vous connecter, enfin, vous demandez à une connexion, c'est un publisher. Donc, on vous renvoie un flux de connexion alors qu'il n'y en aura qu'une. Et puis, une fois que vous avez la connexion, vous allez l'ouvrir. Donc, ça, c'est pareil, c'est un publisher. Alors qu'en fait, c'est une opération, c'est pas un million de résultats que vous allez avoir. Donc, tout est publisher, c'est un truc absolument kafkaïen, je trouve. Qui n'a pas voilà.
C'est la version réactive de JDBC
parce que... Non, bah. Non. Enfin, en fait, ça se présente comme étant un standard, mais c'est pas un standard. Enfin, il n'y a pas d'organisation qui sanctionne ça. Il n'y a même pas de consortium, on va dire, d'industriel fort là-dessus. Quoi. C'est... Autant JDBC, voilà, il y a une spec, il y a une JSR.
Il y a eu un consortium, mais il est mort.
Bah voilà.
D'accord.
Exactement. Mais voilà, le R2DBC, finalement, c'est supposé être un JDBC réactif. Voilà, c'est supposé être ça. Mais en pratique... d'ailleurs, il y a aussi des problèmes de correction et de performance. Hein.
Alors, je tiens à dire, c'est pas vraiment un JDBC réactif, parce que JDBC n'a pas fait cette erreur de mettre des streams partout.
Ah oui.
JDBC, ça reste du request reply, et oui, on peut faire des curseurs, mais c'est une API plus complexe. Dans 98% des cas, on va pas faire de curseur. Le curseur, ça va être que, ah oui, ok, je veux faire ça, et là, je vais faire un curseur, je vais faire ce genre de choses. Mais la plupart du temps, on va faire du execute, on va faire du prepare statement, etc. Donc voilà, est-ce que généraliser l'utilisation de curseurs, ça veut dire ça, hein, pour toutes les opérations, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Sachant le coût que ça. Alors, je le redis, tout ça, c'est valable pour les bases de données relationnelles. Les bases de données de type NoSQL ont des protocoles différents, beaucoup plus modernes, donc certains n'ont pas ces limitations et sont capables de faire du pipelining, de faire du multiplexing, et donc être capables de faire du streaming de manière performante, raisonnablement performante. Mais
le pipelining, est-ce que tu peux l'expliquer? Parce qu'on en a parlé au Marseille Java User Group avec Thomas Sigismond, dont Julien parlait tout à l'heure, mais effectivement, ce n'est pas un concept très connu.
Alors, le pipelining, c'est en fait relativement vieux, hein, ça vient de HTTP 1.1, donc c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Et en fait, l'idée, c'est de prendre une connexion, donc on a une connexion avec une ressource, ça peut être une base de données, ça peut être un serveur HTTP, et on va y passer une séquence de requêtes. Et d'habitude, on fait requête, on attend la réponse, requête, on attend la réponse, requête, on attend la réponse. Le pipelining consiste à passer une séquence de requêtes et ensuite on aura les réponses dans l'ordre. Alors évidemment, ça ne marche que si les requêtes qu'on passe n'ont pas de relation avec la première requête. Sinon, ça marche pas, hein, évidemment. Alors, on peut pas avoir de flow control là-dedans. Mais l'idée, c'est d'envoyer des requêtes comme ça, paf, 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 et ensuite de récupérer les résultats. Donc on économise un grand nombre d'allers-retours. C'est toute l'idée. Parce qu'évidemment, on va pouvoir passer en une frame, ça dépend du framing, mais bon, grosso modo, on va pouvoir passer nos requêtes d'affilée et attendre nos résultats et les avoir les uns après les autres. Voilà. L'ordre est important. Hein. Si évidemment, le pipelining demande que l'ordre des réponses soit dans l'ordre des requêtes. Voilà, c'est ça le pipelining. Et le multiplexing, c'est la capacité sur une même connexion de faire des request reply complètement... Voilà, dans n'importe quel ordre, dans n'importe que, de pouvoir passer plusieurs requêtes et des réponses en même temps, ben, ça demande des protocoles beaucoup plus complexes. Beaucoup plus complexes. TCP le fait, hein, tout ça.
HTTP2, c'est un bon exemple de multiplexing.
Exactement, HTTP2 est capable de faire ça. Même si l'utilisation du multiplexing d'un HTTP2 est pas. Ça n'a pas rencontré son public, on va dire. Ça risque d'être beaucoup plus. Faisable, les use cases vont vraiment démarrer avec HTTP 3 qui rajoute d'autres choses autour qui vont nous permettre de faire des choses vraiment vraiment sympas. Mais bon, aujourd'hui HTTP 3, hein, ça reste encore un peu de la science-fiction, hein, ça arrive, hein, mais il y a assez peu de serveurs qui sont capables de le supporter et assez peu de clients aussi, hein, donc, tant que les navigateurs ne le supportent pas. Voilà. Mais ouais, la bonne vieille méthode fetch ou le bon vieux jQuery Ajax risque d'avoir un peu de dépoussiérage quand ça va arriver.
Et au niveau des bases de données, il faut évidemment que pour le pipelining, elle le supporte. Donc j'imagine que toutes ne le supportent pas actuellement. Dans les drivers réactifs de Vertex, il y a MySQL et Postgre. Je ne sais pas les autres qui sont en attente, peut-être Oracle et
MS SQL Server,
je pense.
Oracle ne le supporte pas actuellement. C'est quelque chose qu'ils veulent rajouter. Mais nos discussions disent oui, mais ça va prendre du temps. Clair, net et précis, du temps, ça se compte en années. Hein. Alors, mais ça, c'est un travail presque en cours. Le multiplexing, c'est du temps qui se compte en beaucoup d'années. DB2, je ne sais pas. Julien, est-ce que tu le sais sur DB2 ? Ce qui est rigolo avec Oracle, c'est qu'en fait, ils ont un driver qui a une couche d'asynchrone plutôt bien faite. Donc voilà, il y a une vraie API dedans. Et donc nous, notre driver JDBC, driver, donc c'est inclus dans le driver JDBC, mais il y a cette couche d'API, et donc il y a l'API Vertex SQL Client qu'on a codé au-dessus d'Oracle, se base sur cette API-là. Donc on n'est pas redescendu au niveau du protocole, parce qu'Oracle, au niveau du protocole, c'est pas forcément ouvert, il n'y a pas forcément de documentation. Par contre, leur driver permet de faire quand même des choses vraiment, vraiment intéressantes.
Alors, quels sont les prochains défis pour ce projet Mutiny ?
Je crois que, il y a un elephant in the room, Loom, les virtual threads. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue réactif ? À ce sujet-là, je conseillerais alors, shameless plug, hein, mais Arthur Navarro et moi-même avons fait un talk à DevOps France qui explique justement comment Loom va être intégré. Donc là, on explique comment Loom va être intégré dans Quarkus, comment Loom est intégré dans Quarkus dès aujourd'hui, les limites, ce qu'on a vu, le rôle de Mutiny dans cette intégration-là, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut faire attention avec Loom. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'on regarde à plusieurs niveaux, comment Mutiny va jouer un rôle là-dedans, comment Vertex va travailler autour de ces virtual threads, ce que ça veut dire en termes de Quarkus, en termes de l'écosystème Java en général, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, mais il y a beaucoup de choses qui vont devoir être recodées pour être compliant avec les virtual threads. Et ça inclut des bases de données, ça inclut des librairies de base, ça inclut Kafka, voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on regarde, c'est un challenge. C'est hyper intéressant, souvent très très technique. On a la chance, et je tiens à le dire, je l'ai déjà cité, mais d'avoir Arthur Navarro qui est un thésard en... Alors il n'est plus en début de thèse, parce que depuis le temps, c'est plus le début de sa thèse, mais bon, voilà, qui travaille sur ces sujets-là, et qui est capable de descendre très très bas en termes de stack, et de nous apporter une connaissance technique obligatoire pour faire une bonne intégration. Et donc je suis très très heureux de l'avoir dans nos équipes. Et voilà, donc Loom, ça va être vraiment le truc qui va nous occuper un petit peu. Ensuite, on a déjà, comme j'ai dit, on a un bel écosystème grâce à Vertex, mais il y a des choses qu'on veut simplifier, typiquement gRPC. gRPC aujourd'hui, on dépend de Java gRPC dans Quarkus. Alors gRPC, hein, alors ça n'a rien de négatif, hein, mais c'est Corba sauce 2020. Mais voilà, ouais, exactement. Donc là, vous avez William qui fait. Ouais.
Voilà, vous ne voyez pas en vidéo, mais.
Je vais lâcher un gros mot, SOP et Whistle, pardon.
Voilà, oui, voilà, c'est toutes les. Grosso modo, c'est beaucoup de très bonnes idées qui ont été peut-être en avance de phase et qui sont en train de revenir, qui sont bien packagées ensemble avec. Moi, j'aime beaucoup gRPC, voilà, je tiens à dire. Mais j'aimais beaucoup Corba, hein, je suis peut-être un des derniers fanboys de Corba, mais bon. Voilà, et donc, quand on utilise gRPC Java, qui nous pose des frictions parce qu'ils utilisent Netty aussi, mais pas forcément les mêmes versions. Et il y a Julien Viette qui a fait un travail phénoménal sur la création d'un nouveau serveur gRPC directement au-dessus de Vertex. Et l'intégration de ça va nous ouvrir un champ de possibilités, mais extraordinaire. Et donc voilà, là-dessus, je veux regarder ce que ça va donner, et j'ai plein d'idées. et continuer à rendre tout notre écosystème cohérent, complet, travailler sur d'autres protocoles. Alors pour Mutiny en lui-même, ça va être continuer les opérateurs, discuter de l'intégration avec Kotlin. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Hein. Kotlin est un très beau langage qui est de plus en plus utilisé. Voilà. Et donc on a un support Kotlin dans Mutiny, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on veut améliorer. Après, Julien a sa propre agenda également. Moi, j'ai un agenda plus big picture. Julien est plus sur Mutiny, Vertex, etc.
Ouais, très bien. Bon courage pour tous ces défis. On attend ça avec plaisir. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé à discuter avec nous. C'était vraiment sympa.
Merci à vous.
Oui, merci à vous. J'espère que ça a plu aux auditeurs. Et encore une fois, s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Alors, pour nous contacter, le plus simple, au final, c'est d'aller sur Zulip. Alors, si vous ne connaissez pas Zulip, vous prenez Slack, vous rajoutez un niveau de concurrence x 100 et vous avez le nombre de notifications que Zulip va vous apporter. Donc, vous allez kiffer. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment super bien. Voilà, sinon les GitHub discussions sur le projet Mutiny ou sur le projet Quarkus, c'est des choses qu'on regarde et on interagira avec vous sans aucun problème. Deux dernières petites choses, encore une fois, shameless plug, Julien a écrit un super livre sur Vertex in Action que je vous recommande si vous voulez regarder quand même comment Vertex fonctionne. Et je vais finir sur le mien. Donc en novembre dernier a été publié Reactive Systems in Java, qui vous explique l'architecture réactive de Quarkus, de pourquoi on est allé là-dessus, un peu toutes ces histoires de Vertex, voilà, Vertex Mutiny, Hibernate Reactive, de pourquoi on a pensé cette stack-là. Donc voilà, je vous les recommande. C'est de très bonnes lectures, surtout que c'est bientôt l'été. Alors c'est peut-être pas aussi passionnant qu'un polar, mais Ça peut être hyper intéressant.
Moi, je veux bien un autographe virtuel de la part de Julien pour son premier livre que j'ai lu, et je prendrai le tien plus tard, alors cet été.
Je te remercie, mais si on se croise, ou même pour les auditeurs, si vous avez le livre et qui dort si vous l'avez sur votre table de chevet, si on se croise à une conférence comme le Volcamp à Clermont-Ferrand au mois d'octobre, tu seras, et je te signerai, on fera un tweet, une photo,
grand plaisir.
Un selfie, et on boira quelques bières.
Top.
Ça marche.
Et on mettra tous les liens de l'article donc scientifique, mais également aussi de vos interventions à Devox passées pour les auditeurs. Voilà. Je vous remercie. C'était super intéressant.
Merci encore.
Merci.
À bientôt.